9h, dans le bureau de Par Jupiter.
Non, mais Maurice Barthélémy, c'est un hypersensible, et c'est pour ça qu'il a fait tout un spectacle dessus.
Ah, moi aussi, je suis hypersensible.
Alors, m'en parle pas, moi aussi, je suis hypersensible.
T'as découvert ça en regardant le spectacle?
Mais non, c'est que j'ai failli pleurer en écoutant une chanson de Francis Lalanne.
Ah, enfin, mais c'est normal, c'est un hypersensible aussi.
Ah, bah ouais, c'est hypersensible, Francis, c'est toi, t'es.
Bah, moi, je suis hypersensible au discours de Poutou. Chaque fois qu'il parle, ça.
Salut les amis, vous parlez de quoi, là?
Bah, non, mais on disait, comme Maurice Barthélémy, qui est notre invité, bah, on est des hypersensibles.
Ouais, enfin, surtout moi, quand même.
Non, alors, moi aussi, très hypersensible.
Vous savez ce que c'est l'hypersensibilité?
Bah oui, c'est comme moi.
Comme moi. Exactement comme moi.
Moi, l'autre jour, j'ai tué un moustique sans faire exprès, bah j'ai failli faire une dépression.
Non, mais attends, mais c'est pas ça l'hypersensibilité?
Ah non, c'est pas ça.
Ah, moi, je suis pas hypersensible, moi. Ça.
Et il est hyposensible,
ah,
c'est
non, mais les garçons, enfin.
Non, mais ça, dans ses chroniques, on entend bien, il a pas d'empathie pour les gens.
Mais c'est fou, tout ce qu'on me dit, ça me touche. Même des fois, j'allume la télé, je vois Christophe Barbier qui parle. Ça me, bah tu vois, voilà, ça me touche.
Oh,
alors, ça, c'est vrai, le pauvre, il est obligé d'avoir un avis comme ça sur tout.
Non, mais vous ne comprenez rien, là, enfin.
Il est avec son petit écharpe rouge.
C'est la même depuis 30 ans.
Non, mais vous avez pas bientôt fini, non? De toute façon, vous savez même pas ce que c'est que l'hypersensibilité.
Charline, je te trouve un petit peu hypersensible.
Ouais.
Hein.
Au boulot, ok.
Dans ta colère, ce qu'on trouve surtout, c'est la sensibilité, Charline. Ouais.
Mais je suis pas hypersensible. Je suis hyper mal entourée.
Et voilà, les jeux de mots foireux.
Ça, c'est typique des hypersensibles.
Typique.
Hein.
Bonjour la France Inter et bienvenue à l'atelier de réparation de la blague, dont voici la devise: le silence est la meilleure réponse que l'on puisse faire à un sot, et aussi manifestement à un tribunal quand on a été président de la République. Voici le sommaire. 30% de la population est hypersensible. L'hypersensibilité se traduit notamment par une réactivité sensorielle et émotionnelle, ainsi qu'une grande empathie. Les gens dans cet état sont donc potentiellement une force de changement pour une société plus bienveillante. Ce qu'il nous faudrait, c'est donc un hypersensible pour 2022.
Mais vous voulez ma peau, quoi? Vous voulez me pousser vers la camisole? Qu'est-ce que c'est que cette connerie, encore?
La mort est-elle une fin? Question philosophique. Mais non, c'est une question de blé, car la mort n'est pas une fin si vous passez au deuil numérique et à l'immortalité digitale. Bientôt, il faudra se battre contre les GAFA pour crever définitivement.
Mes condoléances, chère madame.
Bon, alors, enterrez-les bien, hein. Je vais plus les revoir.
Nous n'avons pas tous la même notion du temps, et d'ailleurs l'humanité se divise en deux catégories, ceux qui sont en retard et ceux qui ne le sont pas. Une étude prétend que les retardataires seraient plus heureux que les autres, alors c'est sûr qu'ils sont déjà moins stressés.
Il faut toujours arriver en retard aux réunions. Un créatif à l'heure n'est pas crédible.
Et oui, pourtant, il est à l'heure.
Il y a une transition.
C'est plus qu'une transition, c'est un message. Bonjour Charline Vanhoenacker. Eh bien, je vous présente l'équipe exceptionnelle que nous avons réunie aujourd'hui à 17h20. Celle qui nous impose ses choix musicaux sans jamais me consulter. Et ça s'entend, je pense. C'est Alina Fanoukoué, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous avez choisi quoi?
Or, on va rendre hommage à Brassens.
Alors, cette fois, si vous m'avez consulté, j'aurais dit oui. Alors là, c'est un grand oui. 17h30, il est allé passer ses vacances à Bruxelles. C'est vous dire s'il en a marre d'entendre causer les Français. Et pourtant, ici, Hermie, Guillaume Meurice.
Bonjour à toutes et à tous. Ben, moi, je me suis intéressé aujourd'hui à la folie autour de Michel Barnier. La France entière est dingue de Michel. Et moi, je suis allé voir la France.
Je crois que c'était le mari de Brigitte Bardot.
On va apprendre des trucs.
Et enfin, 17h40, celle qui s'intéresse aux journées mondiales, alors que dans sa tête, il n'y a jamais de journée mondiale de l'apaisement. C'est Constance, bonjour.
Oh, bonjour.
De quoi on va parler?
Écoutez, une chronique encore indispensable, tout simplement.
C'est pas vrai. Elle s'accumule, j'ai l'impression.
Je vous l'assure. Et voici celui qui a le don de penser l'actualité en arborescence. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Maurice Barthélémy.
Mais oui. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bienvenue Maurice Barthélémy.
Merci, je suis tellement content d'être là.
Mais moi aussi, c'est le premier.
Ah mais non, mais c'est je crois l'apothéose de ma carrière.
Ah mais vous êtes vraiment un hypersensible. Ça vient sur votre... D'accord. Donc ça
vous
c'est
un hyper focus, ouais.
Exact.
Je rappelle que vous êtes acteur, réalisateur, scénariste, on vous connaît aussi pour la troupe des Robins des Bois, et à présent vous proposez un seul en scène adapté d'un livre que vous avez écrit pour parler de votre hypersensibilité. Livre écrit en collaboration avec la psychopraticienne Charlotte Wills. Et votre seule en scène s'intitule « Fort comme un hypersensible ». Il se joue au Théâtre de la Pépinière à Paris, en ce moment.
Maurice... À 19h.
Exactement, à 19h du mardi au samedi. Maurice Barthélémy, vous vous étiez juré de ne jamais faire de seul en scène.
C'est vrai.
Est-ce que c'est votre état d'hypersensible qui vous a conduit à cette promesse ?
Oh là là.
À rompre cette promesse plutôt.
Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit ce bouquin pendant le confinement. Et puis, quand le bouquin est sorti, j'ai reçu beaucoup de messages via Instagram de gens qui disaient « Quel bonheur, j'ai l'impression de moins me sentir seul. » Et je me suis dit « Tiens, je vais créer un rendez-vous pour que les gens qui se sentent seuls se sentent moins seuls. » Donc, j'ai voulu faire ce spectacle. Mais après, je me suis rendu compte que j'allais me retrouver sur scène. Et ça, ça a été un moment un peu compliqué pour un hypersensible. Parce que moi, je m'étais juré de jamais faire ça de ma vie. Et là, bah, je le fais tous les soirs. Mais je le fais, j'ai l'impression d'être utile. Donc finalement, ça me motive. Et ça me donne un petit coup de pied au cul.
Et donc, en tant qu'hypersensible, c'est pas une recherche de la... peut-être de la performance scénique que vous cherchez ?
Non, pas vraiment, parce que là, c'est comme une conférence, en fait. Donc, on n'est pas vraiment dans une prouesse artistique. On est dans un échange. Donc, c'était plus... ouais, me rendre utile, qui m'a motivé.
Vous appelez ça rencontre ?
Oui, c'est une rencontre.
Je trouve ça assez beau. C'est parce que à la fin, vous laissez aussi les gens vous rencontrer. Il y a un question-réponse,
c'est
ce qui n'arrive pas normalement à des one-man shows.
Ouais, pendant 25 minutes, le public pose des questions et je tente d'y répondre.
Mais tout en riant et
oui.
Parce que c'est ce que je me suis dit. Est-ce que pour parler de ça, il y a un côté conférencier ? Bon, vous n'avez, enfin. Vous êtes vous-même, ça pourrait être un one-man show, parce qu'il y a une chaise et une bouteille d'eau.
Une gourde,
ce sont les codes.
Les codes du stand-up.
C'est un stand-up assis.
Ouais, vous n'avez pas un paperboard de conférencier, mais quand même, vous avez choisi de le faire avec humour, parce que c'est une thématique que même si on ne se sent pas concerné, on peut découvrir des choses et reconnaître des gens qu'on...
Ouais, c'était ça l'idée, c'était qu'on aborde un sujet de façon léger et puis en même temps que les gens puissent apprendre des choses, puissent se marrer et en même temps parfois être émus. Bref, c'est un spectacle assez complet.
Et vous avez dû faire le choix.
Le mec qui vend sa soupe.
Vous seriez un politicien, je reposerai ma question, mais bon, là, allez-y. Vous avez dû choisir, quand vous avez dû adapter ce bouquin, de vous dire, tiens, je dois être informatif, parce que vous auriez pu faire des personnages hypersensibles. Il y avait quand même plusieurs façons d'adapter et de nous faire apprendre l'hypersensibilité.
C'est vrai, mais j'étais dans une quête de la sincérité. J'avais envie d'être moi-même, qui parlait d'un sujet qui me tient à cœur, et j'avais envie de qu'on soit dans un échange sincère. Et je pense que parce que je le suis, les gens, en retour, le sont aussi et posent des questions assez étonnantes et assez variées. Et les gens, en sortant de la salle, me disent « c'est étonnant comment il y a autant de questions ». Mais c'est, je pense, parce qu'il y a un moment où je me livre. Et si j'avais interprété des personnages, etc., on aurait été plus dans le Maurice Barthélémy qui a fait les Robin des Bois, etc. Là, j'avais envie d'être le Maurice Barthélémy de tous les jours.
Et puis c'est une bonne manière de ne pas écrire 25 minutes de spectacle.
C'est pas con. Ça se tient.
Dans le question-réponse qu'on a pu voir, il y a quelqu'un qui dit c'est pas du théâtre, c'est la vie. Et c'est exactement ce que...
Ah mais voilà, c'est super. C'est exactement ça l'idée.
Il y a aussi une autre question qui, à mon avis, doit revenir régulièrement, qui est quand est-ce que vous l'avez découvert ? Parce qu'on apprend, du coup, que là, aujourd'hui, vous êtes un représentant parmi d'autres de l'hypersensibilité, mais vous l'avez découvert tard et vous avez compris avec le recul que vous étiez un enfant hypersensible.
C'est ça. J'ai découvert ça il y a 7 ans. J'ai 52 aujourd'hui, à 45 ans. Et en fait, je travaillais sur le cas de ma fille. C'est-à-dire que ma fille avait des caractéristiques un peu étonnantes. C'était une enfant très angoissée à une époque de sa vie. C'était une enfant aussi qui piquait des crises quand elle ne parvenait pas à réussir ce qu'elle entamait. Elle avait des terreurs nocturnes, elle avait des angoisses scolaires. Bon bref, il y avait plein de trucs que je comprenais pas trop chez elle, ce qui fait que j'ai commencé à lire. Et puis, je suis tombé sur le profil des hypersensibles, et là, il y a eu une évidence, et j'ai découvert qu'elle était hypersensible, et que, par capillarité, je l'étais aussi.
C'est bien la
et
première donc, fois que vous arrivez un truc par capillarité.
c'est vrai, c'est très juste. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert ma propre hypersensibilité, et que j'ai eu un moment de soulagement incroyable quand j'ai découvert que j'étais hypersensible. J'ai trouvé ça génial de mettre un nom à un état.
Et dans ce spectacle, votre hypersensibilité, vous expliquez qu'elle exacerbe aussi votre créativité. Donc, en réalité, il y a comme une mise en abîme. C'est un spectacle où aussi vous dévoilez une partie de votre processus créatif.
Mais oui, exactement. Mais en fait, tout se mêle et tout est mélangé, ce qui fait que quand les gens sortent de la salle, ils se disent, bon, qu'est-ce que j'ai vu finalement ? Est-ce que c'est une conférence ? Est-ce que c'est un stand-up ? Est-ce que c'est... Mais ce qui compte, en fait, c'est qu'ils soient surpris et qu'ils aient découvert quelque chose qu'ils ne connaissaient pas et qu'il s'est passé quelque chose d'inhabituel dans une salle de théâtre.
Et, oui. Et comme le rire a des vertus pédagogiques, on comprend très bien ce qu'est votre hypersensibilité. Et on va y revenir tout à l'heure parce qu'on a choisi un sujet pour aller un petit peu plus en profondeur. Car dans cette émission, on creuse.
Oui, oui, oui.
On est connu pour ça, hein, de creuser les sujets. Maurice Barthélémy, fort comme un hypersensible à la Pépinière Théâtre. C'est du mardi au samedi à 19h. Sur France Inter, Like Sugar, programmation musicale, Djoubaka. Nous recevons Maurice Barthélémy aujourd'hui et Alex qui est là.
Mais Guillaume,
oui, je suis là.
Avec Maurice Barthélémy pour le disque. Alina Fanouko qui va nous parler de Brassens, alors ça c'est joie. Et puis la chronique indispensable de Constance.
Oui, et le journal tout autant.
Je n'oserais pas le dire.
C'est encore difficile de se relever et de porter. Une ambition. Voilà, c'est pas grave.
Le journal de presque 17h17.
7 ans de malheur.
On rentre, hein, on a perdu. Hein.
Oh putain.
On commence par les titres.
Emmanuel Macron a annoncé la création d'un contrat engagement jeune de 500 euros par mois en échange d'une formation. Contrat qui devrait concerner 500 000 jeunes.
Toucher 500 000 jeunes, Macron réalise le rêve de l'Église de France.
Justement, pour avancer sur la pédocriminalité dans l'Église, les évêques se réunissent pendant une semaine à Lourdes pour réfléchir au rapport sauvé.
Pour réfléchir. Et puis c'est bien de le faire à Lourdes, parce que peut-être il va se produire un miracle. Que ceux qui sont restés aveugles si longtemps ouvrent enfin les yeux.
Et les brèves.
Et les brèves. Écoutez, moi aussi j'en ai profité pour bien réfléchir à l'importance des brèves. Et bien figurez-vous, c'est très important.
Ah oui, j'étais seul alors.
Oui, d'accord, oui, c'est ça, c'est pas un colloque non plus. Non. On commence par le procès du jour.
Oui, il était très attendu à la barre. Allait-il parler ou non? Allait-il faire les révélations que tout le monde attendait?
Et il a parlé.
Non.
Ah, bah si, il a parlé.
Ah non, mais vous parlez de qui vous?
Salah Abdeslam. Comme vous.
Mais non, je parlais de Nicolas Sarkozy.
Mais c'est vrai qu'on a là les deux finalistes du championnat de France de présence au tribunal.
Nicolas Sarkozy était attendu à la barre comme témoin dans le procès des sondages de l'Élysée et il a choisi de ne pas parler.
Effectivement, et selon un sondage réalisé par l'ancien président, 100% de Nicolas Sarkozy n'avait pas envie de s'y rendre au tribunal.
À droite encore et en vue de 2022, Michel Barnier a obtenu le record de parrainage pour l'investiture LR avec 702 soutiens.
702, maintenant qu'il a trouvé les parrainages, reste à dénicher ce foutu charisme. Puis bim, c'est parti.
En revanche, oui. Denis Paire ne pourra pas être candidat pour LR et il dépose un recours auprès de la direction.
Eh oui, une annonce qui soulève évidemment beaucoup de questions dans le camp des Républicains.
Oui, pourquoi ne peut-il pas être candidat ?
Eh oui, aussi, qui est Denis Paire, qui porte si bien son nom, bien évidemment.
Tout autre chose, oui. Sur Twitter, Francis Lalanne a partagé une théorie autour du tir mortel dont Alec Baldwin a été l'auteur, une théorie farfelue reliant ce drame à Hillary Clinton.
Et on aurait tellement aimé qu'Alec Baldwin soit un peu comme Francis Lalanne, c'est-à-dire qu'il rate toujours sa cible. Oui. Mais non.
Alors d'un chanteur à l'autre, oui. Dans une interview accordée au magazine Gala, Florent Pagny annonce qu'il va revenir s'installer en France.
Ah. Pour son contrôleur fiscal, cette interview dans Gala doit ressembler aux pages lingerie du catalogue La Redoute pour un jeune ado des années 80.
Musique enfin, ouais. Nelson Frère, immense pianiste, est mort à son domicile de Rio de Janeiro à l'âge de 77 ans.
Et nous pensons à toute sa famille, notamment le frère de Frère, la sœur aussi de le fils de Frère.
Oui.
Et les frères d'Intel.
Bien sûr. Très bien. Allez, on passe au bref.
T'es pas sûr que ça marche, mais je me dis...
Faut tenter, ça se tente.
C'est-à-dire que si je la tentais pas aujourd'hui, c'était daté. Hein.
On avait envie de vous laisser, en fait, là-dedans. On n'avait pas envie de vous soutenir.
Deux brefs du Nord. Dans le Nord, un enfant est revenu avec dans son panier d'Halloween un joint de cannabis au milieu de sa récolte de bonbons. Mais oui, dans le Nord, évidemment, on a toujours le risque d'aller sonner chez Émeric Lompré.
Et la dernière,
Pas-de-Calais, le four d'un crématorium explose à cause d'un téléphone portable malheureusement resté dans un cercueil. Aucun blessé n'est à déplorer. Par contre, il y a un mort, mais bon, ça c'est
évidemment
très
prévu. Et vous m'avez rajouté une surprise.
Et oui, c'est surprise. Alors ça, vous aimez les artistes. On aime les artistes ici, et parfois il faut les dénicher où on n'y va pas trop souvent, c'est-à-dire TikTok, YouTube et tout ça. Et franchement, je m'en voudrais de ne pas vous le proposer.
France Inter aime.
Lâchez les musulmans.
Ah oui.
Laissez tranquilles les arabes. Par contre, Zemmour et Le Pen. Cessez votre haine.
C'est Gilles d'Or, comme ça vous pouvez le suivre sur sa chaîne YouTube. C'est un chanteur engagé.
Excusez-moi.
On m'a dit que c'était TikTok.
Il est partout.
Oui, sur Instagram, moi je l'ai vu.
Partout, vous n'êtes pas.
Formidable. Merci Alex Vizorek. Allez, Maurice Barthélémy en notre compagnie, on va aborder ce premier thème. L'hypersensibilité, donc, elle touche 30% de la population, mais la majorité de ces 30% l'ignore. Donc autour de la table, en plus de Maurice Barthélémy, il y a des chances pour qu'il y ait une autre personne, mais on n'est pas là pour parler de Constance.
Oui. Il n'y avait pas de suspense, hein, c'est vrai.
Ce chiffre nous parvient parce que la recherche progresse sur cet état qui met les cinq sens en alerte permanente, qui provoque une réactivité émotionnelle et une forte empathie. Tout cela est parfois épuisant, surtout j'imagine dans cette année 2021. C'est ce que vous appelez la soulance, Maurice Barthélémy, c'est ça la soulance.
Et d'habiter sur la planète Terre, sur ce grain de poussière, sur ce caillou minable, sur cette fausse étoile perdue dans l'univers, berceau de la bêtise et royaume du mal, où la plus évoluée parmi les créatures a inventé la haine, le racisme et la guerre, et le pouvoir maudit qui corrompt les plus purs et amène le sage à cracher sur son frère fatigué.
Renaud, oui, on s'est dit qu'être hypersensible, en cette époque, ça devait être encore plus compliqué. Un long article est paru dans Les Échos il y a deux semaines, puisque là, la recherche avance sur l'hypersensibilité. L'édition, notamment, s'est emparée de ce sujet. Il y a beaucoup de livres qui paraissent entre psy, coach, scientifique. Et certains disent que l'hypersensibilité est une richesse qui peut transformer le monde.
Oui, ça, je le crois.
Parce qu'il y a pas mal d'hypersensibles qui ont une forte empathie et aussi un sens de la justice. Et ce sens de la justice les pousse à défendre des causes importantes. Et donc, je pense que les hypersensibles ont un rôle à jouer dans ce monde qui est en train de changer pour amener du sens. Donc, c'est en ça que je pense que les hypersensibles ont une vraie utilité. Et puis, c'est aussi des gens qui ont une forte spiritualité. Et donc, ça peut aussi apporter aussi, plus de nuances à ce monde dans lequel on vit.
Dans le spectacle, vous dites que vous avez dû faire des choix sur les injustices que vous rencontrez, notamment qu'il y a des gens qui vous dépassent dans la file, et c'est vrai que c'est quand même une injustice. C'est désagréable.
Ah, mais je le vis comme la pire des injustices.
Et vous avez absolument raison, mais vous ne dites pas les choix que vous avez faits. Donc est-ce que vous vous centrez vraiment sur ces gens qui dépassent dans la file, ou est-ce que vous avez d'autres combats?
Alors c'est vrai que celui-ci est un combat important pour moi, puisque je pense qu'en France, c'est quand même un sport national de griller tout le monde,
de manière générale,
de griller tout le monde.
Mais parce que c'est pas autorisé, ça, en fait.
Ça devrait être interdit.
Je vais m'en prendre une.
Ça devrait être interdit. Non, sinon, moi, j'ai des causes qui sont assez communes. Je défends les chimpanzés, par exemple, ou alors la déforestation en RDC, je fais partie de l'Institut Jane Goodell aussi pour la préservation des chimpanzés. Bref, et puis aussi l'UNICEF, et bref.
Voilà. L'hypersensible a du mal à dire non, paraît-il.
Il a du mal à dire non, oui. Pourquoi? Parce qu'il a pression qu'il va décevoir les gens. Et donc, il dit oui parce que il veut être aimé d'une certaine manière. Donc il dit toujours oui. Et c'est un vrai problème.
Vous, comme hypersensible, vous voyez aussi des choses que les autres ne voient pas, peut-être, avec vos cinq sens qui sont peut-être avec plus d'acuité. Vous pensez un peu différemment, avec plein d'idées en arborescence, c'est ce que vous expliquez aussi. Ouais. Est-ce que les hypersensibles au pouvoir, donc, ce serait une force ou un handicap, ou les deux?
Non, moi, je pense que ça serait une force. Il doit y en avoir, d'ailleurs. Ouais. Je pense qu'il doit y en avoir.
30% de la population.
Bah, oui.
Thatcher, non.
Mais je me suis posé la question, par exemple, de Macron, en me disant, est-ce que c'est un hypersensible? Et Macron a un petit problème d'empathie.
Oui.
Et donc, je me suis dit...
On l'avait noté.
Je me suis dit, non, il n'est pas hypersensible. Mais il a quand même des caractéristiques d'hypersensible. Le fait qu'il dorme peu, le fait que c'est quelqu'un qui a une capacité de synthèse importante, etc. Donc, Mais c'est vrai que je pense que le monde irait mieux si on engloberait plus facilement les hypersensibles. Mm-hmm. Parce qu'ils ont une façon de voir et d'appréhender le monde qui est différente. Je ne dis pas qu'elle est mieux, elle est différente. Ouais.
Dans une société inclusive, elle devrait aussi peut-être s'adapter à l'hypersensibilité.
Exactement.
Qui est aussi le problème de bruit, de trop de lumière. Par exemple, dans ce studio de radio, il y a des spots qui sont aveuglants.
C'est ça, il y a beaucoup de lumière.
Ouais.
Et il y a pas longtemps, il y a une personne qui m'a dit qu'elle était dans un grand magasin. Et elle a entendu la voix off du grand magasin qui disait « À présent, nous allons baisser la lumière et le son, car il faut préserver les hypersensibles. » Et là, je me suis dit « Waouh !» Alors là, on a fait bond en avant.
Le lobby
des hypersensibles.
Ça évolue et votre spectacle, il contribue certainement à la Pépinière Théâtre en ce moment.
Merci.
Maurice Barthélémy. Aline Afanoukoé.
Hypersensible aussi.
Ah oui,
hyper boulimique. Hyper tout, moi.
Pas musicalement.
Prouvez-le avec la musique, alors.
Absolument. Savez-vous que le 22 octobre 2021, Georges Brassens aurait eu 100 ans? Oui, vous le savez.
Non, on n'a pas parlé.
On ne compte plus les projets artistiques, les hommages pour célébrer cet événement en France et dans le monde entier. 40 ans après sa mort, Brassens, si vous voulez, c'est le Bob Marley de la chanson française. Une légende. C'est le plus grand troubadour du XXe siècle. Alors, je vous ai préparé une mini playlist des versions étrangères des chansons incontournables de Brassens. Voilà. Honneur à l'Italie pour ouvrir le bal, puisqu'il avait des racines italiennes par ses grands-parents. Saurez-vous reconnaître la chanson originale? Sachant qu'il n'y a rien à gagner, hein. C'est parti.
Ora se c'è una cosa amara, désolante, è quella di capire all'ultimo momento.
Eh oui.
Je vous salue Marie, non?
un point pour moi, Maurice.
Ah, pardon.
Mourir per del idée, pour des idées, paru en 1972 sur l'album Fernande. Fabrizio De André, surnommé Faber, reprend Brassens, son mentor, chanteur et guitariste. Bien, la plupart des textes de ses chansons racontent les histoires d'exclus, de rebelles, de prostituées. Faber est ainsi devenu l'un des chanteurs préférés d'Italie dans le milieu des années 60 en s'inspirant du style de Brassens. Et Brassens en japonais, ça vous dirait d'écouter?
Bien sûr.
Qu'est-ce que ça donne?
Sur les bancs publics. C'est pas mal.
C'est beau.
Hein.
C'est
joli.
On
voit les cerisiers en
face. C'est pas récent.
C'est une sublime reprise des Amoureux des bancs publics. Vous avez gagné par l'icône Koshiji Fubuki, chanteuse et actrice japonaise, grande connaisseuse de la culture française. C'est la première artiste japonaise à avoir repris, par exemple, l'hymne à l'amour d'Edith Piaf. On la retrouve sur l'excellente compilation Brassens Écho du Monde du talentueux producteur Émile Omar, qui d'ailleurs récidive et vient de sortir un nouveau disque intitulé Émile Omar présente Brassens et les copains d'accord. Les copains d'accord, elle est bonne celle-là.
Ouais,
des accords de tous les bords. Oui, jeu de mots.
On a compris, Maître Capello. On l'a compris.
Non,
hein.
Je vous l'explique parce que vous n'avez pas réagi. 16 savoureuses.
Ah d'accord, de musique. Oui, voilà, voilà, on a compris.
Accords de musique avec des reprises inédites comme cette petite pépite house signé Jojoa et Lieutenant Nicholson. Cette fois-ci, on reste en France, mais on garde des couleurs, hein, parce qu'on est comme ça. Et on écoute... Oh ben, je vais vous laisser deviner.
Et dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en...
Je vous salue, Marie.
Non.
Les passants.
Oui.
Ah, ouais.
Guillaume, tu es
un expert.
Ah ouais, non, c'est parfait. Jojoa et Lieutenant Nicholson, donc, qui reprennent les passantes. Brassens, qui mariait idées anarchiques et poésie, représentait le symbole de la liberté d'expression, notamment en Russie. Un de ses plus grands fans, musicien passionné, francophone et francophile, Alexandre Avanessov, a même créé le chœur Georges Brassens de Moscou en 2003. Il revisite ici la chanson pour l'Auvergnat et c'est très beau.
C'est l'Auvergnat.
Оставил в душе навсегда.
Il l'a pas trop revisité, hein.
Ouais, mais c'est super bien fait.
Ah, sinon, c'était le Goulag.
On va terminer en Espagne. On est en 1956 sur Radio Montpellier.
La mauvaise réputation.
Attends, Brassens va faire une reprise de sa propre chanson, La mauvaise réputation, en espagnol et en direct.
J'ai un ami qui m'a traduit les chansons en espagnol. Et il a essayé de respecter, en mesure du possible, de respecter ce que je dis.
Êtes-vous content de la traduction que l'on a fait de vos chansons en espagnol?
Je la trouve excellente, je ne suis pas... Je ne connais pas très bien l'espagnol, mais il me semble que c'est très bon. L'esprit qui est respecté.
En mi pueblo sin pretensión, tengo mala reputación. Que haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. A la fiesta nacional, ya me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me pudo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la bandera. Ya la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Ya la gente no gusta que uno tenga su propia fe. La 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 la. Ça c'est pas bien encore. La 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 la. Mucha precisión, cómo acabará la función. La 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 la. La 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 la. La gente no gusta que uno tenga su propria fe, etc., etc. Je m'excuse auprès des Espagnols. Je dois massacrer un peu leur langue, enfin. Je ferai mieux la prochaine fois.
Ah oui, bah, déjà que c'est trois accords, en plus, mucha precisión. Bon, moi aussi, je peux le faire.
La mala reputación de Jorge Brassens, bien sûr. Et ben voilà, une chanson qui est la plus populaire de Brassens en Espagne. L'écouter dans toutes ses langues, Brassens, ben, c'est la meilleure preuve que sa reputación en a fait un artiste universel. Vous retrouverez toutes les références de cette mini-playlist sur le site de France Inter.
Oh, merci Alina Fanoukoé.
Mais avec grand
Quelle
plaisir.
Bonne idée. Maurice Barthélémy, est-ce que votre perception de la musique en tant que hypersensible est plus différente de la nôtre, plus fine, plus...
Bizarrement, non. J'ai absolument pas l'oreille musicale. Je suis une brêle sur tout ce qui est playlist. Donc, non, j'ai pas du tout développé cette capacité-là.
Quant à la qualité du son, parfois, elle vous...
La qualité du son, oui, beaucoup plus. Ouais. C'est vrai que ça, c'est un truc qui est pour moi hyper important. Au cinéma, par exemple, si tout d'un coup, je sens qu'il y a un problème dans la salle de distribution de son, je suis capable de me lever et aller voir le projectionniste en disant « il y a un problème dans la salle
». Qualité du son, c'est pourquoi vous êtes auditeur de France Inter. Maurice Barthélémy.
Oh là là, bien vu.
Il a dit qu'il écoutait le 5-7.
Il a bien le droit. Oui.
Alors, Guillaume Meurice.
Oui, qualité du son.
Ah bah, justement, on parle de ça. Voilà. On compte sur vous.
Je vais vous parler de Michel aujourd'hui. Michel la star, hein, Michel l'icône. Alors, non, Alex, je ne vais pas parler de Michel Thor. Hein, calmez-vous. Vous l'aurez, la matinale de Chéri FM, un jour. Voilà, vous ferez des spéciales Michel Thor trois fois par semaine, ne vous inquiétez pas. Je vais vous parler de Michel Barnier, le messie, l'idole de tout un peuple. La folie, Michel, hein, s'est emparée du pays. Pendant que les journalistes sculptent la moindre glaire de Zemmour pour s'en faire des colliers, eh bien, c'est Michel qui progresse dans l'ombre, petit à petit, déclenchant des vagues d'adhésion impressionnantes. Michel, c'est la force de John Wayne et le swag d'Alain Juppé. C'est le Barack Obama des circulaires européennes sur la taille des fromages de chèvre dans le Poitou. Il est capable de changer des taux de change par simple imposition des mains. Il est capable de réveiller la libido d'Alain Duhamel. Michel, c'est bien plus que ça, c'est déjà des effets concrets sur l'économie. L'action Audica a pris 15 points à la Bourse de Paris. Les Montescaliers Stana sont devenus leaders sur le marché et partout. Partout, on parle de Michel. C'est la folie Michel, c'est la Michel Mania. Je suis allé le constater encore ce matin à la rencontre d'une population de fanzouz, les fanzouz à Michel.
Je pense qu'il a raison de se présenter. Il y a quand même 40 ans de politique.
Et sur les propositions de Michel Barnier, sur
je ne les connais pas.
Et oui, parce que Michel, il aime le suspense. Voilà, il y a un mystère Michel. Hein, il entretient scrupuleusement. C'est le ton Michel, c'est l'esprit Michel. C'est ça qui plaît, parce que les autres, ils blablatent. Mais Michel, c'est quoi?
Je trouve que chez lui, c'est plus concret.
Qu'est-ce qu'il propose de concret, alors?
Ce qu'il dit, c'est plus sensé.
Et alors, qu'est-ce qu'il dit de sensé?
Comment vous dire cela?
Quelle est la dernière chose de sensé qu'il ait dite ou qui vous a plu?
Bah, c'est qu'il est calme, posé, ouais, voilà. Serein.
Alors ça, il est calme, posé et serein, mais qu'est-ce qu'il dit?
Je sais pas, je trouve que lui, c'est mieux.
Lui, c'est mieux et puis c'est marre. Moi, je prendrais ça en slogan de campagne. Moi, c'est mieux. Voilà, c'est efficace, c'est propre, c'est Michel. C'est Michel. Il a déposé ses parrainages. Les parrainages, on l'a dit aujourd'hui. Son principal soutien les a déposés, c'est Daniel Fasquelle. Voilà, Daniel, c'est le trésorier de Les Républicains. Autant dire qu'il a déjà sa piole réservée à Fleury Mérogis, normalement. Mais Michel, il s'en fout, parce que Michel, c'est quoi d'autre?
Lui, c'est un... Je veux dire, c'est un éléphant, on a plus confiance en lui.
C'est un éléphant?
Il sera moins retors que les autres, parce qu'il a quand même de la bouteille. Donc il va, je vais pas dire mentir, mais enfin, il sera mieux arranger les choses.
Ah, vous pensez qu'il va mieux mentir que les autres?
Ouais.
Et ça, c'est important. Il va mieux arranger les choses, hein, comme on dit, et non mentir, bien sûr. C'est aussi la défense de Constance, hein, quand elle dit aux ingé-sons, mais non, je vais pas crier dans le micro. Elle arrange les choses. Vous êtes un petit peu notre Michel Barnier, finalement, Constance. Qu'est-ce qu'on aime d'autre chez Michel?
Sa discrétion, son élégance, sa manière de parler, son intelligence. Il a été ministre de Chirac ou...
Quel souvenir vous gardez de son action?
Ça, je peux pas vous dire. Il n'a pas laissé des traces extraordinaires, quoi.
Bah, il est discret.
Bah oui.
C'est la discrétion. Michel, c'est vraiment la discrétion. C'est pas un gars qui va te dire « Oui, j'ai sauvé le monde, nanani, nanani ». Le gars le fait, mais discretos. Il a été ministre de l'Environnement, hein, Michel, du gouvernement Balladur.
Ah bon?
Non.
Parle d'un temps que les moins de 127 ans peuvent pas connaître. Hein. Ministre du Climat dans le gouvernement
je
Balladur.
Je m'en rappelais même pas, moi.
Ouais, c'est... Bah, même Charlie Hogan.
Oui.
Oh là là.
Oh, c'est fou.
Donc sous Mitterrand, pas sous Chirac.
Ouais. Et il a été ministre sous Chirac aussi. Ah ben, j'ai un master dans oh, Michel, hein, je vous dis, j'ai étudié. Alors, on continue sur Michel, c'est ma passion.
Honnêtement, ce serait un excellent président. La première chose qui remonte, la première qualité, c'est qu'il est compétent. Mais on n'arrive pas à le cerner, c'est vrai. On n'arrive pas parce qu'il n'est pas très volubile, il est très humble. Mais moi, je pense que on ne sait pas exactement ce qui découle.
On ne sait pas exactement ce qu'il pense, mais il est compétent.
Oh, moi, je vous pense.
Voilà, pareil. Moi, je pense même qu'il est compétent tant qu'il ne dit pas ce qu'il pense. Vous voyez, par exemple, moi, je suis hyper compétent en body fitness. Tant que je ne donne pas mon avis. Vous voyez, c'est ça. C'est l'esprit Michel, c'est la touche Michel, la Michel touch. Et ce n'est pas terminé.
Puis, on a l'impression que c'est un jeune, alors que ça fait 30 ou 40 ans qu'il est dans... Mais c'est quelqu'un de neuf.
Vous avez l'impression que c'est un jeune?
Le fait qu'il se présente au présidentiel, moi je trouve, ça le rajeunit. Pas en termes d'âge, mais en termes De fraîcheur, voilà.
Mais bien sûr, bah, Michel. Mais... Michel la fraîcheur, comme on l'appelle. Il nous a pris nos 17 ans. Emmène-moi à voter ce soir. Joue contre joue, serré dans l'isoloir. Fais-nous l'amour comme aux premiers instants. Avec la droite, on se fait baiser depuis tellement longtemps.
Voilà. Oh, ça me fait des trucs à voilà. Parce que c'est Michel. C'est mon nouveau cum, alors, si tu veux. Merci, Guillaume Meurice. Avec Clément Vouillet à la technique. Maurice Barthélémy, on va aborder un autre sujet. Mm-hmm. Le débat sur la vie numérique après la mort est déjà entendu et revu. À la rigueur, il se renouvelle avec TikTok où lorsque vous disparaissez, vous ne laissez pas que vos amis, vous laissez aussi vos corées endiablées. Alors à la question du deuil numérique, c'est maintenant aux startups de répondre et de faire tourner le business. Il est question de la irréputation posthume, de plateforme du souvenir et d'éternité numérique. La mort n'arrête pas le progrès. Hein.
Démonstration vidéo d'un cercueil à roulettes télécommandé qui avance tout seul dans une allée. Ne payez plus 4 porteurs, télécommandez vous-même votre cercueil. Bio de chez Bio. Le cercueil bio, construit dans des matériaux rapidement biodégradables. Ne soyez plus une charge pour les générations futures. Moins 50% sur les crémations nocturnes.
C'est un extrait de Adieu Berthe, le film de Bruno Podalides. C'est un des sujets que vous souhaitiez aborder. La mort est-elle une fin ? Et aujourd'hui, les plateformes proposent de gérer votre vie en ligne après la mort.
Oui.
Donc, est-ce que ça permet, ça vous aide à répondre à cette question ? La mort est-elle une fin ?
J'ai l'impression que les gens ont peur de la mort. Ça, c'est pas nouveau, d'accord? Mais en fait, si on inversait le problème et si on se disait la mort n'est pas une fin, c'est un passage, donc préparons-nous à la mort parce qu'il va se passer quelque chose peut-être de dingue, ça réglerait pas mal de problèmes.
Le principe des religions.
C'est le principe des religions. On serait moins angoissé par la maladie. On aurait moins besoin d'absolument réussir dans nos vies. On pourrait profiter de la vie beaucoup plus, quoi. Donc, moi, je suis de ceux qui n'ont pas peur de la mort et j'ai envie de mourir.
Écoutez, ça peut s'arranger, faire une petite balade en forêt. En ce moment, c'est la saison de la chasse. Voilà. Pourtant, vous racontez dans votre spectacle qu'enfant, vous aviez peur de la mort.
Oui, c'est vrai.
Et que ça a déclenché une série de tocs.
Oui, exactement. Oui. Quand j'étais gamin, j'avais peur que la bombe atomique tombe sur mon village. J'étais entre Compiègne et Senlis et je me disais, si elle tombe sur Paris, on est mort. Donc, j'avais vraiment peur de ça. Je me réveillais la nuit, j'avais vraiment des flips. Et puis, j'ai commencé à développer des tocs pour régler ces flips. Donc, j'avais des petits rituels. Avant de me coucher, je me relevais pour aller vérifier si la porte était bien fermée en bas, si le gaz était éteint.
En cas de bombe atomique, c'est important.
On ne sait jamais.
Parce que la bombe atomique, elle sonne à la porte.
Bien sûr.
Exactement. Et puis, en fait, je suis tombé sur un bouquin quand j'avais 15-16 ans qui était un bouquin sur les récits de personnes qui revenaient de coma. Et ça m'a complètement apaisé. En fait, le fait de me dire, tiens, peut-être qu'il se passerait autre chose après la mort, ça m'a enlevé l'angoisse de la mort.
Donc, votre hypersensibilité, d'un côté, quand vous êtes enfant, elle vous fait développer des tocs avec la peur de la mort. Ouais. Et puis, elle vous fait aussi développer comme le remède, c'est-à-dire la spiritualité qui vous amène au propos que vous avez tenu tout à l'heure.
Oui, parce qu'en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'un garçon de 16 ans qui devrait faire autre chose que de lire des bouquins sur des near-death experiences, tout d'un coup, s'intéresse à ça. Et ce qui est souvent le cas aussi chez les petits, il y a plein d'enfants hypersensibles qui posent des questions à leurs parents, leur disant « Est-ce que toi, papa, tu vas mourir ? Et où est-ce que tu vas aller ? Et pourquoi est-ce qu'on meurt ?» etc. Donc, la mort, pour les hypersensibles, est un sujet récurrent.
Et donc, dans cette idée de passage à autre chose qui apaiserait tout le monde. Ici, la réponse de la trace numérique et de la gestion de la mort numérique, c'est une sorte de même réponse, mais absolument cynique et...
Ouais,
c'est business. Peu le pendant capitaliste.
Ouais, et puis c'est ce besoin de reculer la mort absolument, de faire de nous des surhommes, de toujours tout contrôler. Alors qu'au contraire, moi, ce que j'essaye de faire au quotidien, c'est lâcher prise. Donc j'ai envie de dire à la France entière, lâchez prise, laissez-vous mourir.
Oui. Mais ça vous change. Ça vous a changé la vie.
Ça m'a totalement changé la vie.
Vrai.
Ouais,
d'accord.
Vraiment. Et ce qui fait que même quand aujourd'hui je vis un enterrement, j'en ai vécu un il y a pas très longtemps, je suis triste parce que la personne va me manquer. Mmh. Mais je me dis quand même, il doit vivre un truc dingue.
Mais qu'est-ce que vous avez des infos sur ce qui se passe après ou
non, non, j'ai aucune info parce que je n'ai aucune certitude.
Mais votre imagination, ce serait quoi?
Moi, pour moi, c'est un passage vers un ailleurs et vers une sorte de, comme si en fait, pour me rassurer, mais je me dis que la vie est peut-être plus douloureuse à vivre que la mort ne l'est. Donc je me dis que ça doit être un endroit beaucoup plus agréable à vivre.
Alors que ça se trouve, c'est pire.
Et là, je vais avoir l'air d'un con. Parce que.
Et là, vous allez nous attendre. Non, et quand dormir. On arrivera, voilà, mon pote.
On délocalisera l'émission dans cet après et voilà. On refera le débat, bien sûr. En tout cas, voilà, c'est tout le côté, la façon dont vous positivez et qui fait que vous arrivez à faire du drôle avec l'émotion aussi dans votre spectacle. Fort comme un hypersensible à la pépinière théâtre. Constance, vous aussi, vous êtes sur scène et dans ce studio. Bonjour les amis. Go to sleep, little baby. Go to sleep, little baby. Mais dis donc, Constance, tu as le blues. Oui, petit esprit facétieux, je me sens carrément perdue. Oui, perdue comme du pain. Mais enfin, que se passe-t-il, Constance? Non, je n'ai pas envie d'en parler. D'accord. Bon, puisque tu insistes, je vais te dire ce qui me bouleverse. Non, tu n'es pas obligée. Si, quelque chose me pèse. Ta balance. Non, je n'ai pas l'esprit à la galijade, petit esprit facétieux. Je craque comme la colline, parce que dimanche dernier, c'était la journée mondiale de l'épargne. Oh, j'adore le flamenco. Non, de l'épargne, pas de l'Espagne. Arrêtez de rire, je souffre. Vous connaissez mon engagement auprès des journées mondiales, semaine après semaine.
Oui.
Eh bien, dimanche dernier, c'était la journée mondiale de l'épargne et je n'ai pas eu l'impression d'être particulièrement épargnée. Non ! Je vais peut-être vous choquer en vous disant, mais j'ai l'impression que les journées mondiales ne servent à rien.
Non. Oh non, Constance, ne dis pas ça quand on est triste, on dit de ton doute de tout, il faut garder la foi.
Je sais, petit esprit facétieux, je sais, mais dimanche, je rentre chez moi, je croise ma voisine, elle ne m'épargne pas, non, du putain blanc, elle me parle de la météo, paf, elle m'enchaîne avec un changement d'heure qui lui perturbe le transit intestinal et elle me termine à grands coups de « Et les enfants, c'est pour bientôt parce que c'est la plus belle chose qui arrive au monde à une femme. » Je m'échappe poliment avant de lui hurler que pour quelqu'un qui a connu la plus belle chose 5 fois dans sa vie, elle a quand même plutôt une gueule à croûter du périnée. Mais déjà, il est trop tard. Le doute m'habite, mon esprit diverge et les questions avancent et reculent de mon petit esprit ébranlé. Arrêtez de me pousser à parler de sexe tout le temps, j'essaye de réfléchir. Et si la vie ne nous épargnait jamais, si depuis notre naissance jusqu'à notre mort, rien n'était prévu pour nous économiser, si nous acceptions cette fatalité, mais tout deviendrait beaucoup plus limpide. Ça expliquerait la paperasse, la laine du matin, l'acné, les rides, les pieds, beaucoup moins pratiques pour attraper des choses ou pour conduire que les mains. L'odeur des géraniums, les flatulences d'ascenseurs, les costumes des vendeurs de voitures, la libido des couples après 10 ans, les agios, la cuvette froide des chiottes le matin, l'odeur du linge mal séché, l'envie de gerber dans le fond de l'autocar, les pervers dans les transports, la tristesse dans les EHPAD, la purée de chou-fleur, l'automne, le mois de février, le maquillage de la boulangère, la bière chaude en canette, la politique, les 35 ans de règles, les religions, les rapports humains, la position du 69, les AVC, l'eczéma, la confiture d'oignon, le tampax gênant parce qu'enfilé de travers, le confort d'une celle de vélo, les gens qui pissent dans la piscine, le milieu du gratin qui est toujours congelé, les frottis, les chocolats, mon chéri.
Ah oui, mais Constance, tu sais, il y a aussi le goût des fraises des bois, le premier baiser échangé avec l'être aimé, s'endormir dans des draps qui sentent bon la lessive, mettre ses petits pieds nus dans le sable chaud, rire, courir, parler à son chien, lire une BD au coin du feu, ou imaginer des dictateurs en slip en train de se cogner les petits doigts de pied dans la table basse.
Tu as raison, petit esprit facétieux. Tu as raison. Et comme le disent si bien les véganes sages à travers leurs proverbes, il n'y a pas d'omelette sans... Non, il n'y a pas d'omelette. Constance, que vous pouvez retrouver dimanche 14 décembre à Metz. Je vous le dis,
j'irai.
Mais chouette. Maurice Barthélémy, diagnostic de Constance?
Ah bah, total hypersensible. Elle a parlé du linge mal séché dont je parle aussi dans ma rencontre. Donc oui, alors.
Et il y a aussi en point commun la petite voix qui
la
vous parle.
La petite voix, exactement. Ouais.
Voilà. Oui, mais de toute façon, je le savais. Hein.
C'est pas une nouvelle.
Je suis à l'intérieur de moi depuis un moment. Donc j'ai remarqué que c'était compliqué. Donc ce que dit Maurice Barthélémy vous parle.
Oui, tout.
Oui, normalement, ça doit aller mieux maintenant que vous l'aviez.
Oui, mais en fait, je me rends compte qu'on vient tous les deux de Picardie.
Ah, c'est vrai, ouais. Vous êtes de où?
À côté de Compiègne.
Ah bon, mais oui. Quel village?
Vieux Moulin.
Ah bah, je vois très bien. Moi, j'étais de Verberie, donc c'était.
Oh, mais oui.
Il y a un cluster hypersensible. Oui.
Bah, c'est peut-être la région qui impose ça. Oui.
C'est ça. Ça déclenche une résilience.
Poursuivons avec la science. D'ailleurs, car d'après une étude scientifique relayée récemment par Le Figaro, les gens en retard seraient plus heureux que les autres. Donc, le réalisateur de notre émission, François Audouin, est très 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 heureux. En effet, les retardataires, en s'affranchissant... Il répond oui dans les baffles. En effet, les retardataires, en s'affranchissant des conventions, s'octroient une liberté qui les rendrait plus optimistes et moins stressés que les autres.
Ah, quel mépris! 2 heures de retard. Et pour finir, un prétexte débile, trouvé à la va-vite. Même pas foutu d'inventer quelque chose de plausible. Il n'y a que du mépris là-dedans.
Ils se sont excusés, Georges. Ça arrive d'être coincé en voiture.
Qu'est-ce que ça peut me foutre, cette excuse sur les embouteillages? Ils découvrent les embouteillages? Ça fait 40 ans qu'ils habitent ici. Ils devraient être prévenus maintenant. À Paris, il y a des embouteillages. Comment être en retard, ça fait riche. Et quand on est célèbre comme lui, n'en parlons pas. C'est une tradition. C'est quasiment obligatoire. On tarde et on apparaît enfin aux yeux du peuple.
Jean-Pierre Bacri.
Quel bonheur.
Eh oui, comme quoi il y a un après qui existe et qu'on l'entend toujours. Et Sam Carman dans Cuisine et dépendance, film de Philippe Mouille, scénario Bacri Jaoui, bien sûr. Maurice Barthélémy, vous êtes stressé par le retard depuis tout gamin.
Oui, parce que j'avais une famille de personnes qui étaient en retard. Donc moi, j'ai déclenché l'effet inverse. Il fallait que je sois à l'heure. Et aujourd'hui, j'ai à la fois un GPS dans ma tête et une horloge. C'est-à-dire que je ne peux pas arriver en retard. C'est-à-dire que, par exemple, là, à cette émission, je suis arrivé 1 heure en avance.
1 heure?
Oui, parce qu'en fait, je me suis gouré sur mon scooter. Il y avait l'heure avant le changement d'heure. Oui. Et donc, je suis arrivé, et comme le disait Constance, qui regarde son heure de scooter? Eh ben, moi. Et donc, je suis arrivé 1 heure en avance. Pour moi, c'est un problème d'arriver en retard. Je n'y arrive pas.
Oui. Et c'est une question de politesse ou c'est au-delà, c'est...
Je pense que c'est de la psychorigidité. Mais c'est vrai que oui, c'est vrai que j'arrive toujours à l'heure, quelle que soit la distance. Je suis capable d'arriver à l'heure alors que j'ai fait 2500 kilomètres.
Ah oui.
Donc c'est vraiment calculé.
Mais vous avez de la compassion pour les gens qui arrivent en retard ou pas du tout?
Alors il y a effectivement un minutage de compassion qui doit s'arrêter au bout de 10 minutes. Après, il y a de l'énervement.
Le physicien Étienne Klein, qui est spécialiste du temps, dit « Notre cerveau est une montre de piètre qualité.
Ouais. »
Votre cerveau, à vous, est peut-être de meilleure qualité.
Ah, c'est une montre suisse, mon cerveau. Comme c'est tout le problème. Hein, ouais. C'est que j'aimerais que mon cerveau s'arrête et qu'il tombe en panne de temps en temps.
Alors, la notion du temps, elle varie aussi d'une personne à l'autre. Vous sentez que votre notion du temps, elle est légèrement différente? Si on parle de notion du temps.
La notion du temps, non, chez moi, elle est... Bah, de toute façon, comme je suis quelqu'un qui suis pas mal dans le contrôle, la notion du temps changerait si je lâchais prise. Mais là, pour le coup, non, moi, je suis toujours à regarder ma montre, à regarder le temps qui passe, à toujours essayer de contrôler tout, donc... Elle ne change pas tant que ça.
Maintenant que vous le dites, Constante, vous êtes toujours aussi bien à l'avance, hein, au bureau.
Je suis toujours à la même heure, je ne supporte pas les gens en retard. Non, mais je suis vraiment hypersensible et je me reconnais vraiment quand vous parlez, parce que ça m'est déjà arrivé de partir, parce que quelqu'un avait 5 minutes de retard et dans ma tête, je me dis « Ok, cette personne ne me respecte pas, ok, d'accord, et je pars et je suis furieuse. » En fait, c'est juste que les gens ne sont pas tous psychorigides avec l'heure.
Ouais.
Mais je ne supporte pas le changement non plus. Ouais. Vous êtes migraineux ou pas?
Non.
Non.
Non, non, insomniaque, mais pas migraineux.
Voilà, chacun sa merde. Hein.
Et j'ai des acouphènes. Et j'ai des acouphènes aussi.
On va peut-être vous laisser vos numéros.
Oui, voilà. Hein,
bon, alors, moi, j'ai aussi une forme de rigidité sur l'heure, étant donné que, bien sûr, cette émission.
Voilà. Et oui,
elle doit avoir des horaires précis. Et là, à 17h56, sur France Inter, c'est l'heure de vous proposer un petit sketch, Maurice Barthélémy.
C'est du sketch, évidemment. Ah, et quel beau rôle que vous allez avoir, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, qui a des petites relations complexes avec ses homologues américains et anglais. Et donc, il était au G20 avec Brigitte. Et voilà, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il a solutionné?
Ce qui sera biboche. Ouais. Je fais Brigitte, moi, alors.
Oui.
Allez, Manu, termine ton goûter. On va voir Biden et Johnson. Hein.
Je suis pas un bébé et j'en ai marre, tout le monde se moque.
Mais pourquoi il se moque?
Bah déjà, parce que je me suis fait marcher sur la gueule pour l'affaire des sous-marins.
Écoute, à ton âge, il faudrait peut-être arrêter de jouer avec des sous-marins.
En plus, depuis le Brexit, les Anglais, ils ne veulent plus de nos pêcheurs.
Oui, alors ça arrive. Ah tiens, il y a Joe Biden.
Ah, bonjour,
va le voir et fais-toi respecter.
Oh, le petit veut des bonbons pour Halloween, c'est ça?
Hein? Non, je suis Emmanuel Macron, le président de la France.
La France. Ah, Lafayette, la France.
Oh, il m'énerve, celui-là, il m'énerve.
Calme-toi, mon chaton. Il a dit ça parce qu'il a connu Lafayette.
Je suis pas un chaton. Et puis, ne me stresse pas, tu sais bien, je suis hypersensible, moi.
Oui, mais je t'avais dit qu'il fallait acheter le livre « Fort comme un hypersensible » de Maurice Barthélémy aux éditions Michel Lafon à 18,95€.
Ah, c'est gentil de faire ma promo dans le sketch.
Excusez, on peut revenir à moi, s'il vous plaît.
Oui, alors, la prochaine fois, tu me piques pas mes contrats des sous-marins, d'accord?
Oui, oui, bien sûr, c'est so cute. Allez, traverse la rue, tu vas trouver un travail.
Mais tu vois, Brigitte, il se moque! Non, vraiment, je vais craquer!
Mais calme-toi, mon chou!
Je suis pas un chou!
Ah, là-bas au bar, va voir Boris Johnson, c'est lui qui est coiffé comme une brosse à cabinet.
Du rhum des femmes et de la bière, nom de Dieu.
Ah, Monsieur Johnson!
Oh, Pierre Macron, viens boire un verre avec moi.
Je m'appelle pas Pierre, mais Emmanuel!
M. Oh, it's impossible to say. C'est plus simple, j'appelle tout le français. Pierre, allez, viens, on va boire un verre.
Je voudrais qu'on parle de la pêche.
Oh, monsieur, un jus de pêche pour mon ami.
Non, vous voulez dire que je suis très en colère. Je ne suis pas content du tout.
Oh, sais-tu comment, en Angleterre, on appelle les Français pas contents?
Non.
On les appelle ça les Français.
Non, mais il se moque de moi, lui aussi.
Hi, Boris, you know this little boy.
Hey, Joe, hey, so funny, he wants to talk with us.
Crazy guy. Mais il m'écoute pas.
Viens, chouchou, on rentre, on va parler avec Jean Castex.
Lui, au moins, quand je crie, il m'écoute.
Maurice Barthélémy, bravo, parce qu'il faut dire à nos auditeurs, oui, et rappeler que dans le sketch, vous découvrez le texte sur le moment. Hein, vous,
oui,
l'avez pas lu.
Ça.
Et ouais, vous avez trouvé cette voix tout
je
de suite.
Je ne sais pas, c'était ma manière de faire Macron. C'est bizarre.
C'est Benjamin Button parce qu'il a rajeuni pendant le sketch.
Maurice Barthélémy, merci beaucoup d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Je rappelle, votre seule en scène, Fort comme un hypersensible, à la Pépinière Théâtre du mardi au samedi à 19h. Et donc, bien sûr, ce livre, hein, c'est tiré d'un livre, donc qui est toujours disponible aux éditions Michel Lafon. Merci beaucoup.
Merci.
Et merci les amis, Alina Fanoukoé, Constance, Alex et Guillaume. Je vous dis à demain, mercredi, jour de Parjupiclas. Et en vacances, ça s'appelle un jour de continuité pédagogique.
L'éducation est un sport de combat. N'oubliez jamais ça.
Allez, au combat.